comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Première partie du journal de Jonathan Harker, publiée en dehors de l'édition originale. L'invité de Dracula. Lorsque je partis en excursion, un beau soleil illuminait Munich et l'air était rempli de cette joie particulière au début de l'été. La voiture s'ébranlait déjà lorsque Herr Delbrück, le patron de l'hôtel des quatre saisons où j'étais descendu, accourut pour me souhaiter une promenade agréable. Puis, la main toujours sur la portière, il s'adressa au cocher. Et surtout, soyez de retour avant le soir, n'est-ce pas? Pour le moment, il fait beau, mais ce vent du nord pourrait bien finir, malgré tout, par nous amener un orage. Il est vrai qu'il est inutile de vous recommander la prudence. Vous savez aussi bien que moi qu'il ne faut pas s'attarder en chemin cette nuit. Il avait souri en disant ces derniers mots. « Ja, mein Herr, » fit Johann d'un air entendu, et touchant de deux doigts son chapeau, il fit partir les chevaux à toute vitesse. Lorsque nous fûmes sortis de la ville, je lui fis signe d'arrêter et lui demandai aussitôt « Dites-moi, Johann, pourquoi le patron a-t-il parlé ainsi de la nuit prochaine ?» En se signant, il me répondit brièvement « Walpurgisnacht ». Puis, de sa poche, il tira sa montre, une ancienne montre allemande, en argent et de la grosseur d'un navet. Il la consulta en fronçant les sourcils et haussa légèrement les épaules dans un mouvement de contrariété. Je compris que c'était là sa façon de protester assez respectueusement contre ce retard inutile et je me laissai retomber au fond de la voiture. Aussitôt, il se remit en route à vive allure, comme s'il voulait regagner le temps perdu. De temps à autre, les chevaux relevaient brusquement la tête et reniflaient. On eût dit qu'une odeur ou l'autre, que seul percevait, leur inspirait quelque crainte. Et chaque fois que je les voyais ainsi effrayés, moi-même assez inquiet, je regardais le paysage autour de moi. La route était battue des vents, car nous montions une côte depuis un bon moment et parvenions sur un plateau. Peu après, je vis un chemin par lequel, apparemment, on ne passait pas souvent et qui, me semblait-il, s'enfonçait vers une vallée étroite. J'eus fort envie de le prendre, et même au risque d'importuner Johann, je lui criai à nouveau d'arrêter et je lui expliquai alors que j'aimerais descendre par ce chemin. Cherchant toutes sortes de prétextes, il dit que c'était impossible et il se signa plusieurs fois tandis qu'il parlait. Ma curiosité éveillée, je lui posai de nombreuses questions. Il y répondit évasivement et en consultant sa montre à tout instant en guise de protestation. À la fin, je n'y tins plus. « Johann, lui dis-je, je veux descendre par ce chemin. Je ne vous oblige pas à m'accompagner. » Mais je voudrais savoir pourquoi vous ne voulez pas le prendre. » Pour toute réponse, d'un bond rapide, il sauta du siège. Une fois à terre, il joignit les mains, me supplia de ne pas m'enfoncer dans ce chemin. Il mêlait à son allemand assez de mots anglais pour que je le comprenne. Il me semblait toujours qu'il allait me dire quelque chose, dont la seule idée sans aucun doute l'effrayait, mais à chaque fois, il se ressaisissait et répétait simplement en faisant le signe de la croix « Walpurgisnacht, Walpurgisnacht ». Je voulus un peu discuter, mais allez donc discuter quand vous ne comprenez pas la langue de votre interlocuteur. Il garda l'avantage sur moi, car bien qu'il s'appliquât chaque fois à utiliser les quelques mots d'anglais qu'il connaissait, il finissait toujours par s'exciter et par se remettre à parler allemand, et invariablement alors, il regardait sa montre pour me faire comprendre ce que j'avais à comprendre. Les chevaux aussi devenaient impatients, et ils reniflèrent à nouveau. Voyant cela, l'homme blêmit, regarda tout autour de lui, l'air épouvanté, et soudain, saisissant les brides, conduisit les chevaux à quelques mètres de là. Je le suivis et lui demandai ce qu'il poussait soudain à quitter l'endroit où nous nous étions d'abord arrêtés. Il se signa, me montra l'endroit en question, fit encore avancer sa voiture vers la route opposée, et enfin, le doigt tendu vers une croix qui se trouvait là, me dit, d'abord en allemand, puis dans son mauvais anglais, « C'est là qu'on a enterré celui qui s'est tué. » Je me souvins alors de la coutume ancienne qui voulait qu'on enterrât les suicidés à proximité des carrefours. « Ah oui, fis-je, un suicidé, intéressant. » Mais il m'était toujours impossible de comprendre pourquoi les chevaux avaient été pris de frayeur. Tandis que nous parlions de la sorte, nous parvint de très loin un cri qui tenait à la fois du jappement et de l'aboiement. De très loin, certes, mais les chevaux se montraient maintenant véritablement affolés, et Johann eut toutes les difficultés du monde à les apaiser. Il se retourna vers moi et me dit la voix tremblante « On croirait entendre un loup, et pourtant il n'y a plus de loup ici. »« Ah non ? Et il y a longtemps que les loups n'approchent plus de la ville ?»« Très, très longtemps, du moins au printemps et en été. »« Mais on les a revus parfois, avec la neige. » Il caressait ses chevaux, essayant toujours de les calmer, lorsque le soleil fut caché par de gros nuages sombres qui, en quelques instants, envahirent le ciel. Presque en même temps, un vent froid souffla, ou plutôt il y eut une seule bouffée de vent froid qui ne devait être en somme toute qu'un signe précurseur, car le soleil, bientôt, brilla à nouveau. La main en visière, Johann examina l'horizon, puis me dit « Tempête de neige, nous l'aurons avant longtemps. » Une fois de plus, il regarda l'heure, puis, tenant plus fermement les rênes, car assurément la nervosité des chevaux pouvait lui faire redouter le pire, il remonta sur le siège comme si le moment était venu de reprendre la route. Quant à moi, je voulais encore qu'il m'expliquât quelque chose. « Où mène donc cette petite route que vous refusez de prendre ?» lui demandai-je. « À quel endroit arrive-t-on » Il se signa, marmonna une prière entre les dents, puis se contenta de me répondre. « Il est interdit d'y aller. » « Interdit d'aller où ?» Mais au village ? Ah, il y a un village là-bas ? Non, non, il y a des siècles que personne n'y vit plus. Pourtant, vous parliez d'un village ? Oui, il y en avait un. Qu'est-il devenu ? Là-dessus, il se lança dans une longue histoire où l'allemand se mêlait à l'anglais dans un langage si embrouillé que je le suivais difficilement, on s'en doute. Je crus comprendre cependant qu'autrefois, il y avait de cela des centaines et des centaines d'années, des hommes étaient morts dans ce village, y avait été enterré, puis on avait entendu des bruits sous la terre, et lorsqu'on avait ouvert leur tombe, ces hommes et ces femmes étaient apparus pleins de vie, un sang vermeil colorant leurs lèvres. Aussi, afin de sauver leur vie, et surtout leurs âmes, ajouta Johann en se signant, les habitants s'enfuirent vers d'autres villages où les vivants vivaient et où les morts étaient des morts et non pas des... et non pas quelque chose d'autre. Le cocher, évidemment, avait été sur le point de prononcer certains mots et à la dernière seconde, il en avait été lui-même épouvanté. Tandis qu'il poursuivait son récit, il s'excitait de plus en plus. On eût dit que son imagination l'emportait et c'était dans une véritable crise de terreur qu'il l'acheva, pâle comme la mort, suant à grosses gouttes, tremblant, regardant avec angoisse tout autour de lui, comme s'il s'attendait à voir se manifester quelque présence redoutable sur la plaine où le soleil brillait de tous ses feux. Finalement, il eut un cri déchirant plein de désespoir. « Walpurgisnacht !» et il me montra la voiture, comme pour me supplier d'y reprendre place. Mon sang anglais me monta à la tête et, reculant d'un pas ou deux, je dis à l'Allemand « Vous avez peur, Johann, vous avez peur. Reprenez la route de Munich, je retournerai seul. La promenade à pied me fera du bien. » La portière étant ouverte, je n'eus qu'à prendre ma canne en bois de chêne, dont, en vacances, j'avais toujours soin de me munir. « Oui, rentrez à Munich, Johann, » repris-je. « Walpurgisnacht, ça ne concerne pas les Anglais. » Les chevaux s'énervaient de plus en plus et Johann essayait à grand-peine de les retenir, cependant qu'il me priait instamment de ne rien faire d'aussi insensé. Pour moi, j'avais pitié du pauvre garçon qui prenait la chose tellement à cœur. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de rire. Sa frayeur lui avait fait oublier que, pour se faire comprendre, il devait parler anglais, de sorte qu'il continua à baragouiner de l'allemand. Cela devenait franchement ennuyeux. Du doigt, je lui montrais sa route, lui criais « Munich !» et, me détournant, je m'apprêtais à descendre vers la vallée. Ce fut cette fois avec un geste de désespoir qu'il fit prendre à ses chevaux la direction de Munich. Appuyé sur ma canne, je suivis la voiture des yeux. Elle s'éloignait très lentement. Alors, apparut au sommet de la colline une silhouette d'homme, un homme grand et maigre. Je le distinguais malgré la distance. Comme il approchait des chevaux, ceux-ci se mirent à se cabrer, puis à se débattre et à hennir de terreur. Johann n'était plus maître d'eux, ils s'emballèrent. Bientôt, je ne les vis plus. Alors je voulus à nouveau regarder l'étranger, mais je m'aperçus que lui aussi avait disparu. Ma foi, c'est le cœur léger que je m'engageais dans le chemin qui effrayait tant Johann. Pourquoi ? Il m'était vraiment impossible de le comprendre. Je crois que je marchais bien 2 heures sans m'apercevoir du temps qui s'écoulait, ni de la distance que je parcourais, et assurément sans rencontrer âme qui vive. L'endroit était complètement désert. Ceci toutefois, je ne le remarquais que lorsque, à un tournant du chemin, j'arrivais à la lisière d'un bois dont la végétation était clairsemée. Alors seulement je me rendis compte de l'impression qu'avait faite sur moi l'aspect désolé de cette partie du pays. Je m'assis pour me reposer, observant peu à peu toutes les choses autour de moi. Bientôt, il me sembla qu'il faisait beaucoup plus froid qu'au début de ma promenade et que j'entendais un bruit ressemblant à un long soupir, entrecoupé de temps à autre d'une sorte de mugissement étouffé. Je levai les yeux et je vis que de gros nuages très hauts passaient dans le ciel, chassés du nord vers le sud. Un orage allait éclater, c'était certain. Je me sentis frissonner et je crus que j'étais resté trop longtemps assis après ces 2 heures de marche. Je repris donc ma promenade. Le paysage devenait réellement merveilleux. Non pas que l'œil fût attiré particulièrement par telle ou telle chose remarquable, mais de quelque côté que l'on se tournât, tout était d'une beauté enchanteresse. L'après-midi touchait à sa fin. Le crépuscule tombait déjà lorsque je commençais à me demander par quel chemin je retournerais vers Munich. L'éclatante lumière du jour éteinte, il faisait de plus en plus froid et les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel devenaient de plus en plus menaçants, accompagné d'un grondement lointain, duquel surgissait de temps à autre ce cri mystérieux que le cocher croyait reconnaître pour celui du loup. Un instant, j'hésitais. Pourtant, je l'avais dit, je voulais voir ce village abandonné. Continuant à marcher, j'arrivai bientôt dans une vaste plaine entourée de collines aux flancs complètement boisés. Du regard, je suivis la sinueuse route de campagne. Elle disparaissait à un tournant, derrière un épais bouquet d'arbres qui s'élevait au pied des collines. J'étais encore à contempler ce tableau quand soudain un vent glacé souffla et la neige se mit à tomber. Je pensais aux milles et aux milles que j'avais parcourus dans cette campagne déserte et j'allais m'abriter sous les arbres en face de moi. Le ciel s'assombrissait de minute en minute, les flocons de neige tombaient plus serrés et avec une rapidité vertigineuse, si bien qu'il ne fallut pas longtemps pour que la terre, devant moi, autour de moi, devint un tapis d'une blancheur scintillante dont je ne distinguais pas l'extrémité, perdue dans une sorte de brouillard. Je me remis en route, mais le chemin était très mauvais. Ses côtés se confondaient ici avec les champs, là avec la lisière du bois, et la neige ne simplifiait pas les choses. Aussi ne fus-je pas long à m'apercevoir que je m'étais écarté du chemin, car mes pieds sous la neige s'enfonçaient de plus en plus dans l'herbe, et me semblait-il dans une sorte de mousse. Le vent soufflait avec violence, le froid devenait piquant, et j'en souffrais véritablement, en dépit de l'exercice que j'étais bien forcé de faire dans mes efforts pour avancer. Les tourbillons de neige m'empêchaient presque de garder les yeux ouverts. De temps en temps, un éclair déchirait les nues, et l'espace d'une ou deux secondes, je voyais alors devant moi de grands arbres, surtout des ifs et des cyprès couverts de neige. À l'abri sous les arbres et entouré du silence de la plaine environnante, je n'entendais rien d'autre que le vent siffler au-dessus de ma tête. L'obscurité qui avait créé l'orage fut engloutie par l'obscurité définitive de la nuit. Puis la tempête parut s'éloigner. Il n'y avait plus par moments que des rafales d'une violence extrême, et chaque fois, j'avais l'impression que ce cri mystérieux, presque surnaturel, du loup était répété par un écho multiple. Entre les énormes nuages noirs apparaissait parfois un rayon de lune qui éclairait tout le paysage. Je pus de la sorte me rendre compte que j'étais parvenu au bord de ce qui ressemblait vraiment à une forêt d'ifs et de cyprès. Comme la neige avait cessé de tomber, je quittai mon abri pour aller voir de plus près. Je me dis que peut-être je trouverais là une maison, fût-elle en ruine, qui me serait un refuge plus sûr. Longeant la lisière du bois, je m'aperçus que j'en étais séparé par un mur bas, mais un peu plus loin, j'y trouvais une brèche. À cet endroit, la forêt de cyprès s'ouvrait en deux rangées parallèles pour former une allée conduisant à une masse carrée qui devait être un bâtiment. Mais au moment précis où je l'aperçus, des nuages voilèrent la lune, et c'est dans l'obscurité complète que je remontai l'allée. Je frissonnais de froid tout en marchant, mais un refuge m'attendait et cet espoir guidait mes pas. En réalité, j'avançais tel un aveugle. Je m'arrêtai, étonné du silence soudain. L'orage était passé. Et en sympathie, eût-on dit avec le calme de la nature, mon cœur semblait cesser de battre. Cela ne dura qu'un instant, car la lune surgit à nouveau d'entre les nuages, et je vis que j'étais dans un cimetière et que le bâtiment carré au bout de l'allée était un grand tombeau de marbre, blanc comme la neige qui le recouvrait presque entièrement et recouvrait le cimetière tout entier. Le clair de lune amena un nouveau grondement de l'orage qui menaçait de recommencer, et en même temps, j'entendis les hurlements sourds mais prolongés de loups ou de chiens. Terriblement impressionné, je sentais le froid me transpercer peu à peu, et me semblait-il jusqu'au cœur même. Alors, tandis que la lune éclairait encore le tombeau de marbre, l'orage, avec une violence accrue, parut revenir sur ses pas. Poussé par une sorte de fascination, j'approchai de ce mausolée qui se dressait là, seul, assez étrangement. Je le contournai et je lus, sur la porte de style dorique, cette inscription en allemand. « Comtesse Dollingen de Graz, Styrie. Elle a cherché et trouver la mort, 1801. Au-dessus du tombeau, apparemment fiché dans le marbre, le monument funéraire était composé de plusieurs blocs de marbre. On voyait un long pieu en fer. Revenu de l'autre côté, je déchiffrais ces mots gravés en caractères russes. Les morts vont vite. Tout cela était si insolite et mystérieux que je fus près de m'évanouir. Je commençais à regretter de n'avoir pas suivi le conseil de Johann. Une idée effrayante me vint alors à l'esprit. C'était la nuit de Walpurgis. Walpurgisnacht. Oui, la nuit de Walpurgis, durant laquelle des milliers et des milliers de gens croient que le diable surgit parmi nous, que les morts sortent de leurs tombes, et que tous les génies malins de la terre, de l'air et des eaux mènent une bacchanale. Je me trouvais au lieu même que le cocher avait voulu éviter à tout prix, dans ce village abandonné depuis des siècles. Ici, on avait enterré la suicidée, et j'étais seul devant son tombeau, impuissant, tremblant de froid, sous un linceul de neige, un orage violent menaçant à nouveau. Il me fallut faire appel à tout mon courage, à toute ma raison, et aux croyances religieuses dans lesquelles j'avais été élevé, pour ne pas succomber à la terreur. Je fus pris bientôt dans une véritable tornade. Le sol tremblait comme sous le trot de centaines de chevaux, et cette fois, ce ne fut plus une tempête de neige, mais une tempête de grêle qui s'abattit avec une telle force que les grêlons emportaient les feuilles, cassaient les branches, si bien qu'en un moment, les cyprès ne m'abritèrent plus du tout. Je m'étais précipité sous un autre arbre, mais là non plus, je ne fus pas longtemps à l'abri, et je cherchais un endroit qui pût m'être vraiment un refuge. La porte du tombeau, qui, étant de style dorique, comportait une embrasure très profonde. Là, appuyé contre le bronze massif, j'étais quelque peu protégé des énormes grêlons, car ils ne m'atteignaient plus que par ricochet, après être d'abord tombé dans l'allée ou sur la dalle de marbre. Soudain, la porte céda, s'entr'ouvrit vers l'intérieur. Le refuge que m'offrait ce sépulcre me sembla une aubaine par cet orage impitoyable, et j'allais y entrer lorsqu'un éclair fourchu illumina toute l'étendue du ciel. À l'instant même, aussi vrai que je suis vivant, je vis, ayant tourné les yeux vers l'obscurité du caveau, une femme très belle, aux joues rondes, aux lèvres vermeilles, étendue sur une civière et qui semblait dormir. Il y eut un coup de tonnerre, et je fus saisi comme par la main d'un géant qui me rejeta dans la tempête. Tout cela s'était passé si rapidement qu'avant même que je pusse me rendre compte du choc, tant moral que physique, que j'avais reçu, je sentis à nouveau les grêlons s'abattre sur moi. Mais en même temps, j'avais l'impression étrange de n'être pas seul. Je regardais encore en direction du tombeau dont la porte était restée ouverte. Un autre éclair aveuglant parut venir frapper le pieu de fer qui surmontait le monument de marbre, puis se frayer un chemin jusqu'au creux de la terre, tout en détruisant la majestueuse sépulture. La morte, en proie à d'affreuses souffrances, se souleva un moment. Les flammes l'entouraient de tous côtés, mais ses cris de douleur étaient étouffés par le bruit du tonnerre. Ce fut ce concert horrible que j'entendis en dernier lieu, car à nouveau la main géante me saisit et m'emporta à travers la grêle, tandis que le cercle des collines autour de moi répercutait les hurlements des loups. Le dernier spectacle dont je me souvienne est celui d'une foule mouvante et blanche, fort vague à dire vrai, comme si toutes les tombes s'étaient ouvertes pour laisser sortir les fantômes des morts qui se rapprochaient tous de moi à travers les tourbillons de grêle.